RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel. Tout de suite, votre édition Afrique Soir avec Nemo Ampis. Bonsoir Nemo.
Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. À la une, la disparition du dernier survivant de l'orchestre à l'origine du titre Indépendance Tcha-Tcha, Pierre Yantula Elengesa, alias Petit Pierre, s'est éteint samedi à l'âge de 83 ans, signe du destin peut-être, c'était à la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une photo pour beaucoup de bruit au Cameroun, Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, a publié sur ses réseaux sociaux une photo où on la voit embrasser une autre jeune femme, une sorte de coming out qui fait parler dans un pays où l'homosexualité est réprimée. C'est notre dossier du soir. Dans le reste de ce journal, un bilan alourdi au Nigeria après des attentats suicides perpétrés par des femmes dans le nord-est du pays. Les autorités évoquent 32 morts. Mohamed Ould Cher El Razouani pour un nouveau mandat en Mauritanie. Le chef de l'État sortant réélu avec plus de 56% des voix. Et puis une victoire historique sur le Tour de France. L'Érythréen Binyam Girmay remporte la troisième étape. Le premier coureur noir à lever les bras sur la grande boucle.
Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. Okipwanza, tcha-tcha, tout va guider. Au tableau.
L'air vous est probablement familier. Indépendance, tcha-tcha, devenu l'hymne des indépendances sur le continent africain. Eh bien, on a appris la mort du dernier survivant de l'African Jazz, l'orchestre à l'origine du morceau. Pierre Yantula Elengesa, surnommé Petit Pierre, s'en est allé à l'âge de 83 ans samedi. Ironie du sort, la veille du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Indépendance, tcha-tcha, un morceau mythique né en 1960 pour préparer justement l'indépendance de ce qui était encore appelé à l'époque le Congo belge. Dieudonné Yangomba, journaliste et chroniqueur musical à la télévision nationale congolaise, se souvient bien de Petit Pierre.
Petit Pierre, je l'ai connu puisqu'il habitait mon quartier, dans cette commune de Saint-Jean, aujourd'hui Lingwala. Donc c'était pour moi aussi un père, parce qu'il m'a vu naître, il m'a vu grandir. Petit Pierre Elengesa Yantula devait être notre invité permanent à l'émission Variété musicale du dimanche 30 juin à partir de midi. On l'attendait ce jour-là, mais malheureusement, on nous a annoncé sa mort le 29 juin. Ce jour-là, Petit Pierre s'apprêtait à aller prester avec des jeunes, ces jeunes gens de l'orchestre Panelec Sound. Et voilà, il a été surpris par la mort, il a pété une crise cardiaque. Ce fut une grande tristesse pour moi, parce que c'est une bibliothèque qui vient de partir. Il devrait raconter beaucoup de choses le dimanche sur notre plateau de Caribou Variété, et ça aurait édifié beaucoup, beaucoup de personnes sur l'African Jazz, qui était l'orchestre qui a été invité à la table ronde de Bruxelles en 1959, qui préparait bien sûr l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'époque.
Dieudonné Yangomba, joint par Amélie Tulé, il rajoute qu'il espère un hommage officiel pour Petit Pierre et que le gouvernement prenne en charge ses obsèques. Direction le Cameroun pour notre dossier du jour, avec un coming out qui fait du bruit, celui de la rappeuse King Nasty, qui n'est en fait autre que le nom de scène de Brenda Biya, 26 ans, la fille du président Paul Biya. Celle qui a entamé une carrière d'artiste a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle accompagnée d'une autre jeune femme. On les voit s'embrasser sur ce cliché. De quoi faire réagir sur la toile au Cameroun, pays où l'homosexualité est réprimée. Polycarpe Somba.
Sur la photo, les deux jeunes femmes apparaissent de profil, mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Biya malgré ses lunettes de soleil. Et Brenda légende la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse. « Je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache. » La section commentaire en dessous de la publication est bloquée, comme si Brenda Biya voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile, et parmi les multiples réactions, celle remarquée de Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT plus camerounaise, qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique. Elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle. La publication félicite Brenda Biya pour son courage. Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait peut-être, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Berthold, journaliste et lanceur d'alerte, interpelle lui aussi les autorités dans un tweet. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans de prison la pratique de l'homosexualité.
Très nombreuses réactions donc sur les réseaux sociaux au Cameroun. Je vous propose d'écouter celle de Maître Alice Nkom. Elle est avocate, militante acharnée pour la dépénalisation de l'homosexualité. Elle n'est évidemment pas restée insensible à cette publication. Elle salue le courage de Brenda Bia et voit en ce coming out un espoir pour l'ensemble de la communauté LGBT camerounaise.
Franchement, bravo Brenda, merci pour ce courage. J'espère qu'il va inspirer d'autres personnes de la communauté LGBT du Cameroun en particulier et du monde entier. C'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les parents. J'en ai entendu quelques-uns dire que si mon fils est homosexuel, je le tue, sans compter tous les autres qui, une fois outés de gré ou de force, sont chassés de la maison où le bon Dieu les a envoyés sur terre. Alors, à tous ces parents-là, je vous dis, vous avez désormais l'exemple de parents qui acceptent l'homosexualité de leur fille. Ce couple s'appelle Chantal et Paul Biya. Et quand on sait que c'est dans un pays répressif, un pays qui condamne des jeunes gens à des peines d'emprisonnement sévères pour ces rapports homosexuels présumés ou réels, eh bien, on se dit que il y a là quelque chose d'historique, il y a là quelque chose à retenir qui annonce des changements auprès du législateur qui est en même temps le papa de Brenda.
Par cette sortie, Brenda Bia fait-elle un pied de nez au pouvoir, notamment à son propre papa, le président Paul Biya?
Brenda n'a pas fait de pied de nez à personne. Brenda vit sa vie de femme, tout simplement. Elle la vit avec courage, elle la vit avec beauté d'ailleurs, parce que moi je les trouve magnifiques, ces deux tourtereaux qui s'embrassent. Je trouve ça formidable. Au fond, est-ce que ce n'est pas la quête de chacun d'entre nous de trouver l'amour sur son chemin? Donc Brenda ne fait de pied de nez à personne. Je n'aimerais pas qu'on prenne ça comme ça. C'est un acte de courage de dire « je vis un grand bonheur, partagez ce bonheur avec moi ». L'amour est un droit humain. C'est ce que je vis aujourd'hui. Je viens d'avoir le droit d'aimer et d'être aimé.
L'avocate Maître Alice Nkom, joint par Polycarpe Somba, qui signe ce dossier du jour à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. L'Est de la République démocratique du Congo, toujours en proie aux violences. Dimanche soir, c'est un convoi humanitaire de l'ONG britannique Tearfund qui a été pris pour cible. Il revenait du territoire de Lubero quand il a été attaqué vers la localité de Butembo. Bilan, au moins 2 agents tués, 5 véhicules incendiés par un groupe de jeunes non identifiés. Une attaque qui a eu lieu sur fond d'affrontements réguliers entre forces gouvernementales aidées par des groupes armés locaux et rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Les explications de notre correspondant à Goma, Héritier Baraka.
Cette attaque contre une organisation humanitaire est une première dans cette zone où la situation humanitaire est très critique. Selon Mate Sanane, président de la société civile de Butembo, le convoi humanitaire s'est heurté à une patrouille de jeunes qui effectuait une ronde pour prévenir toute entrée des rebelles du M23 dans la ville.
Le convoi venait de Lubero via Luhutu pour Butembo. Et il semble qu'ils ont rencontré les gens là-bas. Ils ont fini par brûler le véhicule et il y a eu 3 morts aussi.
Dans un communiqué, l'ONG britannique Tearfund a indiqué que des membres de son personnel sont portés disparus. Alors que les besoins humanitaires sont énormes suite à la fuite des déplacés en raison des combats, l'administrateur du territoire de Rubero, le colonel Ale Kiowa, a appelé les jeunes à ne pas s'en prendre aux humanitaires.
Je suis en train de regretter aussi les comportements de nos jeunes gens, et je leur dis que les humanitaires ne sont pas nos ennemis et ce n'est pas la cible qu'il faut cibler en ces moments ici. La cible, c'est notre ennemi commun à tous, qui est le M23.
Depuis la fin de la semaine dernière, les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villes du territoire de Rubero. Le mois dernier, le comité international de la Croix-Rouge a d'ailleurs suspendu ses activités de distribution de vivres aux personnes déplacées en raison de l'intensification des affrontements. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et j'ajoute que les combats entre le M23 et l'armée congolaise se sont poursuivis lundi dans ce territoire de Lubero et dans celui de Massissi où 4 civils ont été tués. Le nord-est du Nigeria également endeuillé. Les autorités du pays font état de 32 morts après des attentats suicides perpétrés par des femmes kamikazes dans la ville de Gwoza. Des attentats qui ne sont pas sans rappeler le mode opératoire employé par le groupe terroriste Boko Haram au plus fort de l'insurrection djihadiste qui ravage l'état de Borno depuis maintenant 12 ans. Les détails avec Lisa Fabian.
La première explosion a eu lieu en plein cœur d'un mariage. Selon des témoins, c'est une femme qui portait un enfant sur son dos qui a déclenché sa ceinture d'explosifs au milieu des invités. Alors que les prières funéraires pour les victimes de cette première attaque étaient en cours, une deuxième femme kamikaze a ensuite déclenché un engin explosif dans la foule, faisant de nombreuses victimes. Une autre explosion a retenti près de l'hôpital général de la ville de Gwoza, déclenchée cette fois par une adolescente, et un quatrième attentat suicide a pris pour cible un poste de sécurité de l'armée nigériane. Le bilan ce lundi est de 32 morts et plus d'une quarantaine de blessés, alors que les autorités annoncent avoir arrêté deux autres femmes qui ne seraient pas passées à l'acte. Cette série d'attaques sanglantes rappelle les pires heures de l'insurrection djihadiste dans le Borno. L'utilisation de filles et de femmes pour conduire des attentats suicides était alors courante, alors que ce mode opératoire s'est fait beaucoup plus rare ces dernières années. Le président nigérian Bola Tinubu a condamné un acte de terreur désespéré et il a estimé qu'il ne s'agit que d'un épisode isolé.
Lisa Fabian, un bilan alourdi également au Kenya. La semaine dernière a été mouvementée dans le pays, marquée par des manifestations anti-gouvernementales réprimées dans le sang. Des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé après le vote du projet de loi de finances mardi. Un texte finalement retiré le lendemain par le président William Ruto. Ce soir, dans un communiqué, la Commission nationale des droits humains annonce la mort de 39 personnes. 361 autres personnes ont également été blessé. Il va enchaîner un deuxième mandat consécutif. Mohamed Oulcher El Razouani a été réélu à la tête de la Mauritanie. Le président sortant est crédité d'un peu plus de 56% des voix par la commission électorale. Un peu plus d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes samedi. À Nouakchott, la correspondance de Léa Breuil.
La commission électorale vient de l'annoncer. Le président sortant, Mohamed Oulcher Razouani, est réélu pour un second mandat à la tête du pays. Avec un peu plus de 56% des voix, selon les résultats provisoires, après le dépouillement de tous les bulletins, l'actuel chef d'État obtient la majorité absolue dès le premier tour. L'opposant Biram Naabed, lui, arrive en seconde position, comme lors de la dernière présidentielle, mais cette fois avec un peu plus de 22% des voix, contre 19% en 2019. Il a déclaré hier lors d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale, qu'il accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir et dénonce une fraude électorale. De son côté, le candidat islamiste du Tawassul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Amadi Oulsid El Mokhtar, se classe troisième avec légèrement moins de 13% des voix. Les autres candidats ne réalisent eux que des scores en dessous de 4%. L'avocat Elid Mohamedine est quatrième avec 3,5% des voix, suivi du candidat de la JDMR Mamadou Bokar Ba et du professeur Outouma Soumari. Enfin, Mohamed Lemine El Ouavi, ancien candidat à la présidentielle, ne dépasse pas les 1%. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Léa Breuil, Nouakchott, RFI.
L'actualité en bref au Bénin. Le président Patrice Talon a reçu deux de ses prédécesseurs ce lundi. Rien n'a filtré de cet entretien avec Boni Yayi et Nissé Forsoglo, eux qui ont pris l'initiative d'une médiation pour tenter d'apaiser les tensions avec le Niger voisin. Ils ont notamment rencontré la semaine dernière à Niamey le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger qui a renversé il y a un peu moins d'un an l'ancien président Mohamed Bazoum. Au Mali, c'est ce lundi que la cour d'assises de Bamako a ouvert une session spéciale sur les crimes économiques. Pendant deux mois, ce sont plus de 180 accusés qui comparaîtront dans différentes affaires. Une session monumentale donc, même si certains dossiers ne seront pas examinés. Plus de détails avec David Bachet.
L'un des dossiers les plus attendus ne sera traité que fin août, celui des ristournes dans le secteur du coton, qui concerne Bakary Togola, l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et 11 co-accusés. En 2021, le roi du coton avait été acquitté, une procédure en appel avait été engagée. De nombreuses autres affaires de malversation financière seront jugées. Elles concernent l'entreprise ADM, Aéroport du Mali, la Somagep, l'entreprise publique de distribution d'eau, l'INPS, l'Institut National de Prévoyance Sociale ou encore l'hôpital du Point G à Bamako. Deux dossiers très attendus ne sont en revanche pas au programme. Le premier concerne l'EDM, plusieurs hauts cadres de l'entreprise publique d'électricité et l'ancien ministre Sédou Lamine Traoré, en poste au début de la transition et en détention depuis janvier dernier, sont poursuivis dans des affaires de vol de générateurs et de camions-citernes. Mais l'instruction est toujours en cours, ce dossier n'est donc pas programmé, même si d'autres cas de malversation concernant l'EDM seront bien jugés. Autre grande absente, l'affaire des contrats d'équipement militaire. L'ancien premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga, mort en détention il y a 2 ans, était en prison dans le cadre de ce dossier, qui concerne également l'ancienne ministre Boiré Félissi Soko. Incarcérée en août 2021, elle clame son innocence et réclame depuis 3 ans d'être jugée.
David Baché, une tentative d'apaisement des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie, et c'est la Turquie qui est à la manœuvre. Les ambassadeurs des ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés ce lundi à Ankara. Les tensions sont vives entre Addis Abeba et Mogadiscio depuis la signature en début d'année d'un protocole d'accord entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland, un texte qui vise à accorder à l'Éthiopie un bail de 20 km de base navale pour 50 ans en échange d'une reconnaissance diplomatique. Côté somalien, l'acte est vu comme une agression. Clotilde Hazard est à Addis Abeba pour RFI.
Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait pourtant déclaré qu'aucun dialogue ne serait possible sans le retrait de l'accord. Avec cette rencontre, il semble revenir sur ses propos prononcés en février dernier. Le chef d'État a déjà fait un pas la semaine dernière vers de possibles négociations en proposant à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge, mais dans le respect des conditions commerciales établies par son pays. Un adoucissement après de fortes tensions. En avril, la Somalie a renvoyé l'ambassadeur éthiopien à Addis Abeba avant d'exhorter le pays à retirer ses troupes présentes sur son territoire en mission contre les terroristes Al-Shabaab. Les autorités éthiopiennes, quant à elles, restent silencieuses. Le pays n'a toujours pas reconnu officiellement le Somaliland depuis la signature de l'accord, condition indispensable de sa mise en œuvre. Ces pourparlers s'amorcent sous la houlette d'Ankara, la Turquie, déjà proche alliée de la Somalie, dont il est le principal partenaire économique, entend ainsi étendre son influence dans la région. En début d'année, le pays a déjà renforcé ses liens avec Mogadiscio en signant un accord commercial pour exploiter le pétrole et le gaz présents au large des côtes somaliennes, mais aussi un accord de défense important comportant une aide pour défendre son littoral et reconstruire ses forces navales. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
RFI, minuit 47 ici à Paris. Vous êtes à l'écoute de la dernière édition d'Afrique Soir. C'est un jour historique pour le sport africain sur le Tour de France. Pour la première fois en 111 éditions, c'est un coureur noir qui a levé les bras. C'était ce lundi sur la 3e étape entre Plaisance et Turin. Victoire au sprint devant les cadors du peloton de l'Érythréen Binyam Girmay à 24 ans. Le cycliste franchit une marche supplémentaire dans une carrière exceptionnellement riche pour un sportif et cycliste africain, avec des victoires déjà sur le Giro ou dans les classiques belges. Sur place, Thomas de Saint-Léger est l'envoyé spécial de RFI sur la Grande Boucle.
Ils ont vu l'histoire s'écrire sous leurs yeux à 70 km/h. Abraham et ses amis, érythréens de Turin, n'ont pas fini de chanter la gloire de Binyam Girmay, la fierté de tout un pays.
On est tellement fiers, tellement contents. Il a tout, Binyam, la force, la puissance, tout. C'est un grand héros.
Voilà justement le héros qui descend du podium, médaille au cou, sourire jusqu'aux oreilles. Binyam, sur un nuage.
Si vous voyez mon cœur, je dois être à plus de 200 battements par minute. Même quand il n'y a pas de coureur noir, le Tour de France est énorme chez nous en Érythrée. Surtout les étapes de sprint. Alors là, je n'imagine même pas. On a attendu longtemps pour avoir un coureur au départ. Maintenant, on gagne. C'est incroyable.
Incroyable et en même temps, on l'a vu venir. Binyam Girmay, de ses premiers succès en Afrique à des débuts tonitruants en Europe, avec une victoire d'étape sur le Giro il y a 2 ans. Aujourd'hui, la concurrence aussi applaudit ce phénomène qui rafraîchit l'image du cyclisme. Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis.
C'est un symbole, une bonne chose pour lui, d'abord pour son équipe et puis pour tout le cyclisme.
Ironie de l'histoire, un film sur le destin de Binyam Girmay vient de sortir, 7 ans de tournage, et il faudra peut-être réécrire la fin. Thomas de Saint-Léger, Turin RFI.
Et en revanche, ce mardi, peu de chance de voir Binyam Girmay l'emporter à nouveau. La quatrième étape emmène enfin les coureurs en France, du côté de Valoire. Et il faudra avant cela passer le col du Galibier, l'un des plus hauts des Alpes. Explication attendue entre les meilleurs grimpeurs du peloton. À noter que c'est maintenant l'équatorien Richard Carapaz qui porte le maillot jaune. Mais les autres favoris, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, sont tous dans le même temps que lui. Un mot de football également. On connaît une troisième affiche des quarts de finale de l'Euro en Allemagne. Le Portugal rejoint la France après sa victoire ce soir face à la Slovénie. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Pas non plus de but dans les prolongations. Cristiano Ronaldo a même raté un pénalty avant d'inscrire son tir au but. Tout comme ses coéquipiers Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Côté slovène, aucun tir au but marqué. Je vous le disais, c'est donc la France qui attend le Portugal. Les Bleus qui se sont imposés un peu plus tôt dans la journée. 1-0 face à la Belgique grâce à un but contre son camp de Yann Vertonghen après une frappe déviée de Randal Kolo Muani. France-Portugal à suivre ce vendredi à partir de 19h, temps universel. Demain, on joue les deux derniers huitièmes de finale de la compétition. Roumanie-Pays-Bas, coup d'envoi à 16h, temps universel, suivi d'Autriche-Turquie à 19h. Les deux vainqueurs s'affronteront pour une place en demi-finale. RFI minuit 50 ici à Paris. Les principaux titres de ce mardi 2 juillet. Aux États-Unis, la Cour suprême déclare que Donald Trump est partiellement protégé des poursuites judiciaires. Elle a renvoyé aujourd'hui aux juridictions inférieures la question de l'immunité pénale de l'ancien président américain, retardant une fois de plus la tenue de son procès fédéral à Washington. Lui s'est rendu dans une prison fédérale du nord-est des États-Unis. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, il doit commencer à purger sa peine pour entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. En Grèce, les violents incendies qui se sont déclarés dimanche dans la grande banlieue d'Athènes ont été maîtrisés. Le porte-parole des pompiers l'a annoncé il y a quelques heures, une nouvelle rassurante, même si les autorités grecques s'attendent à un été difficile en matière d'incendies. Au Brésil d'ailleurs, l'Amazonie a connu son pire premier semestre en 20 ans concernant les incendies. 13 489 foyers recensés que les experts attribuent notamment une sécheresse historique dans la plus grande forêt tropicale de la planète. Notre dossier Afrique Éco du mardi 2 juillet dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province enclavée et isolée de l'Ituri. Sa frontière avec l'Ouganda lui permet toujours de s'approvisionner, notamment en produits manufacturés. Mais depuis quelques années, la région congolaise, pourtant réputée pour son agriculture, importe aussi des produits maraîchers. La faute, on vous en parle régulièrement, aux violences intercommunautaires qui empêchent les cultivateurs de se rendre dans les champs. Coralie Pierret s'est elle rendue sur la rive congolaise du lac Albert pour RFI.
Au port de Tchomia et Kasseni, les pirogues sont déchargées directement dans des camions sur les berges du lac Albert. Direction Bunia, la capitale de l'Ituri, à une cinquantaine de kilomètres. Les marchandises seront ensuite réparties dans différentes localités, aux quatre coins de la province.
Je réponds au nom de Jacques Ngaf.
Et vous êtes capitaine de pirogue ?
Je suis le capitaine de pirogue.
Nous transportons du ciment, de l'huile végétale, des sacs de riz et différents biens de consommation.
Au total, une vingtaine de bateaux se relaient. Trois ou quatre font la traversée entre les deux pays chaque jour. Sur le pont, nous croisons un civil, Olivier, qui se définit comme agent collaborateur de la douane.
Ça arrive de l'Ouganda, direct au port de Tchomia.
Et l'inverse ?
Non, seulement l'Ouganda. Je suis ici, ça fait 3 ans.
3 ans et avant ça ?
Avant ça, j'étais enseignant.
Comme Olivier, de nombreux hommes chômeurs ou à la recherche d'un emploi journalier gravitent entre ces deux ports. Nombreux sont des déplacés du conflit qui sévit en Ituri depuis 2017. Un conflit violent où des communautés se disputent sites miniers et terres agricoles sur fond de rivalité ethnique et de racisme. Un conflit qui profite à l'Ouganda, explique Jacob Bimbona, le président des transporteurs du lac Albert.
Il y a des pirogues qui sont ici. Et donc la troisième est là, arrive maintenant. Et vous voyez l'autre pirogue là, ça nous a amené donc les moyens de vivre. Il n'y a que des pommes de terre.
Pourtant ici, la RDC est une terre agricole.
Terre agricole, mais suite à l'insécurité, il n'y a pas moyen donc, de faire l'agriculture.
Avant, ce n'était pas comme ça.
Avant, ça n'était pas comme ça. Tous ces produits ne provenaient pas de l'Ouganda.
Un seul produit congolais est exporté de la RDC vers l'Ouganda, l'or. Mais ce trafic invisible est illégal. Selon une étude d'une ONG anticorruption, environ 95% de l'or exporté depuis l'Ouganda est illicite. Coralie Pierret, de retour de Tchomia et Kassémi, RFI.
Le dossier Afrique Éco à retrouver sur notre application RFI Pure Radio, minuit 54 ici à Paris. On referme cette demi-heure en musique après Amani Way, Le chemin de la paix, paru en 2019. Le chanteur-guitariste comorien Elias poursuit sa recherche identitaire avec Zangoma, un nouvel album qui scelle les fondations du rock Zangoma, fusion de rythmes ternaire des îles de la Lune et binaire occidentaux, un socle enrichi par d'autres sonorités propres à l'océan Indien comme le Touareg ou le Maloya, une esthétique insulaire plurielle porteuse de textes conscients, cicatrices du colonialisme, crise sociale à Mayotte, changement climatique ou encore exil. On écoute Zangoma d'Elias.
Come with me to move Zangoma. Karibu Shanzani, Josine Mudangoma.
Tap tap with you to groove Zangoma. Tikaribu Shanzani nje. Manawasi Rina Biaya Rina Shigoma Twarabu na Kanza Rina Oi Namgoto Rina Wasne Rina Ngala Rina Igwadu Dandaru na Sambe Rina
chanteur, guitariste comorien Elias, sur le nom du même album Zangoma. C'est ainsi que se referme cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à Wafanour, à la réalisation, à Alexandra Branchon, à la rédaction en chef, à Sigrid Azerwal, à attaché d'édition ce soir, minuit 57, ici à Paris. Le prochain journal dans deux minutes.
RFI, la sélection du mois.
Sina Away. Manu Sissoko. Soprano.
J'ai grandi dans les quartiers chauds, là où des jeunes font du rodéo, escortés par la forte mondéo pour faire danser le quartier. Et à l'école, y'a ceux qui sont futés, dans la rue, y'a ceux qui sont rusés.
Nita Maraïba.
Ricardo et Marianne.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Pourquoi se sent-on incompris ? Comment reprendre confiance en soi et aller vers les autres ?
Mercredi.
Comment changer le regard sur le bégaiement ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, Vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Patrick Chesnais partage au public ses lettres d'excuses aux personnes qu'il aime ou qu'il a aimées, au temps, au lieu, à la politique, à la vie et même au soleil. Quant à Lorraine de Sagazan et Anouk Maugin, elles ont érigé un sanctuaire du chagrin à partir de 200 objets liés au traumatisme de leur propriétaire.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.